Bonjour. Je vais commencer par me présenter, parce que c'est toujours bien de savoir qui parle. Donc, moi, je suis enseignante. J'enseigne la philosophie en classe de terminale, plus exactement dans un établissement spécialisé, qui est un établissement de soins et études pour adolescents, qui est situé en banlieue parisienne. Et bon, sinon, j'écris depuis 5-6 ans, notamment avec Miguel Benassayag. On a écrit pas mal de livres, l'éloge du conflit parmi ceux-ci. Et très récemment, j'ai donc écrit un livre qui s'appelle « À l'école des compétences, la fabrication de l'élève, de l'éducation à la fabrication de l'élève performant ». Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre. Donc en l'occurrence, j'ai découvert que la notion de compétence... Peut-être qu'on m'entend,
non ? Oui, non, mais je pense pas très bien.
Non, pas très bien. Donc, j'ai découvert que la notion de compétence, qui a l'air comme ça, d'une notion tout anodine, on dirait que, être compétent, c'est posséder un savoir, c'est savoir faire quelque chose avec précision, etc. Et que l'école rende compétent, c'est bien. Ça a l'air tout anodin, et en fait, ça a une place, aujourd'hui, dans les systèmes éducatifs au niveau mondial, qui n'est pas du tout anodine. Et donc, moi, j'ai découvert dans ma pratique... il se trouve que j'avais jamais entendu parler de compétences parce qu'en philosophie, c'est pas du tout une notion qui est utilisée dans la pédagogie des enseignants et qui leur est imposée. Mais comme j'ai été nommée sur ce poste spécialisé, j'ai fait une formation à l'enseignement spécialisé et là j'en ai entendu parler pour la première fois. Et donc j'ai appris qu'il y avait des pays, par exemple, où on avait réformé l'ensemble des contenus aux compétences, c'est-à-dire qu'on n'enseigne plus des matières, des disciplines comme l'histoire-géo, les mathématiques, le français, etc. On enseigne des compétences. Et ces compétences, donc ça peut être des compétences liées à des disciplines, mais ça peut être aussi des compétences dites sociales, par exemple, comme savoir prendre la parole en public, comme savoir gérer ses émotions, etc. Ça peut être des compétences professionnelles ou ça peut être des compétences techniques. Et j'ai découvert également donc en France, il y a eu un socle de connaissances et de compétences qui a été introduit dans les objectifs de l'enseignement français en 2005, qui au départ semblait sans effet sur l'enseignement, même si souvent dans les programmes, par exemple les programmes du primaire ou les programmes des sciences de la vie et de la terre ou les programmes de certaines matières, comme ça, il y avait des référentiels de compétences qui étaient un petit peu accolés au programme disciplinaire, et puis on évaluait parfois si les compétences avaient été acquises ou pas. Et progressivement, l'évaluation par compétences est devenue de plus en plus importante. Et cette année, c'est devenu obligatoire de remplir un carnet de compétences, un livret de compétences, pour obtenir le diplôme national du brevet en troisième. Alors là, les professeurs sont obligés, en plus de donner des notes à leurs élèves, de remplir des carnets de compétences dans lesquels les 7 compétences du socle qui a été voté en 2005 sont divisées, subdivisées en micro-compétences, dont il faut dire si l'élève les a acquises ou non, sachant que ces micro-compétences, elles ne relèvent pas d'une discipline ou de l'autre, mais elles relèvent de toutes les disciplines, donc il faut que les professeurs se mettent ensemble pour décider si l'élève a bien acquis ou non ses compétences. Et ensuite, l'élève, il va avoir ce livret qui va le suivre, qui est en voie d'informatisation, et dont on soupçonne qu'il va être mis en rapport avec les organismes qui gèrent ensuite l'emploi et les entreprises aussi, et que comme dans les entreprises aujourd'hui, de plus en plus, on évalue et on recrute par compétences, les compétences qui auront été validées durant le primaire et le secondaire seront prises en compte par les employeurs pour le recrutement et la gestion des employés. Donc voilà, j'ai découvert tout ça et j'ai découvert que donc ça avait pris une ampleur au niveau mondial qui ne venait pas du tout des systèmes éducatifs eux-mêmes, mais qui venait du monde de l'entreprise et des États, mais des États dans des politiques qui sont des politiques économiques, hein, qui ne sont pas des politiques éducatives, c'est-à-dire ce sont d'abord des politiques économiques qui décident de ça avant que ce soit des politiques éducatives. Et dans le cas de la France, c'est même carrément l'Europe, les institutions européennes, qui, après réunion de patrons, donc une table ronde des patrons européens, ont fixé un ensemble de compétences clés pour la formation tout au long de la vie, et c'est une application de ça que le socle de connaissances et de compétences français. Donc voilà, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut que j'écrive un livre dans lequel je raconte non seulement ça, mais en plus aussi comment j'ai découvert la chose, c'est-à-dire finalement comment j'étais ignorante au départ de ce qui m'était imposé. Moi, je pensais que c'était voilà, une petite réforme pédagogique, pas forcément très adaptée à l'enseignement de la philosophie, puisque moi, on me demandait, par exemple, à quoi est-ce que mon débat philosophique, alors je ne sais pas, ça pouvait être un débat sur une grande question comme la religion, etc., et finalement, est-ce qu'il avait servi à ce que l'élève prenne la parole en public? Est-ce qu'il gère ses émotions? Est-ce que, bon, des choses qui n'avaient rien à voir avec la philosophie, et dont je me disais, bon, quand même, c'est pas possible de faire semblant de croire que la philosophie, ça doit servir à ça. Voilà, donc, au départ, bon, j'étais là, je me disais, c'est pas très adapté à la philosophie. En fait, je crois que c'est plus grave, c'est que, effectivement, les finalités de l'éducation, aujourd'hui, ne sont plus directement éducatives, elles sont économiques. Et qu'il y a là quelque chose de très grave quand ça touche à l'enseignement lui-même, c'est-à-dire pas seulement à la façon dont on va privatiser l'école, on va privatiser l'institution scolaire, mais à la façon dont l'enseignement lui-même va devenir formaté économiquement. C'est-à-dire que ça va devenir l'enseignement de compétences utiles pour l'employabilité, un point, c'est tout. Alors, voilà, tout ça pour introduire. Je voulais simplement rajouter que... Le fait que parmi les trois sujets qui ont été choisis par l'université populaire, il y ait l'école, c'est quelque chose qui me paraît très intéressant, parce qu'il y a vraiment un clivage, me semble-t-il, et depuis que je circule avec ce livre, surtout dans les milieux enseignants, je m'aperçois justement de l'ampleur de ce clivage, entre les professionnels de l'éducation d'un côté, qui sont très au fait de certains problèmes de l'école, et d'autre part, les usagers qui à la fois ont un grand intérêt pour l'école et en même temps ne connaissent pas finalement toutes ces problématiques et restent un petit peu, j'ai l'impression, extérieurs au débat sur l'école, alors qu'ils devraient bien davantage y participer. Et c'est pour ça que, justement, le fait que ça ait été choisi comme le sujet de cette université populaire, dans un esprit, justement, de se réapproprier des grandes questions de société qui ont été, en quelque sorte, volées aux citoyens, il me semble que c'est quelque chose de très important et de très positif. Donc là, je vais commencer à répondre aux questions qui m'ont été posées par le groupe, sachant que donc je prépare quelque chose en essayant d'être au plus près des questions que vous me posiez. Voilà. Donc vous me demandez d'abord quelle est la mission de l'éducation nationale et ses objectifs. Alors il faut savoir que depuis 2000, l'ensemble des textes de loi qui régissent l'éducation est synthétisé dans le code de l'éducation. Donc si vous voulez aller voir, c'est possible. Et vous trouverez là l'ensemble des textes qui ont été réunis. Alors, en ce qui concerne la question, la mission de l'éducation nationale et ses objectifs, en réalité, il faudrait dire les missions, hein, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous allez voir. L'article 1 les définit. Et alors, il va dire, par exemple, l'article 1 va dire que la mission première de l'éducation, c'est, outre la transmission des connaissances, faire partager aux élèves les valeurs de la République. Voilà. Mais à la suite de cette mission, donc, de cette phrase, apparaissent une série de missions ou d'objectifs tout à fait hétéroclites et non hiérarchisés. Il y en a dans tous les sens. Apprentissage et maîtrise de la langue française, acquisition d'une culture, développement de la personnalité de chacun, élévation de son niveau de formation initiale et continue, insertion dans la vie sociale et professionnelle, exercice de la citoyenneté, contribution à l'égalité des chances, réussite de tous les élèves, etc., etc. On peut noter d'ailleurs le vague de beaucoup d'objectifs, ainsi que leur absence de base juridique. Ça signifie quoi, par exemple, égalité des chances? À quoi est-ce qu'on mesure la réussite de tous les élèves? Dire quoi? Et comment on le mesure concrètement? Par ailleurs, mis à part, donc, enfin, si on laisse de côté tous ces objectifs dont je n'ai pas fait une liste exhaustive qui sont listés par le Code de l'éducation, on trouve encore de nombreux autres objectifs qui sont fixés soit par des textes non codifiés, ce sont par exemple, et c'est très important, les objectifs éducatifs qui sont définis dans le cadre des finances de l'éducation, Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en 2001, il y a une loi, la loi organique sur la loi de finances, qui a été votée en France, qui est très importante, parce qu'elle change le mode de gestion des politiques publiques. Et elle instaure en fait un nouveau système de gestion publique par la performance. C'est-à-dire que les moyens des politiques publiques ne vont plus être alloués, seront désormais alloués sur des programmes qui sont définis et en fonction des objectifs qui sont définis aussi, atteints. Donc. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une efficacité dans ce cadre-là, en fait, à atteindre les objectifs dans le cadre des programmes. Alors, dans le cadre de l'éducation, on a par exemple l'objectif de supprimer le redoublement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, c'est une politique qui est très à la mode, parce que les résultats des évaluations internationales des systèmes scolaires au niveau mondial montrent qu'un système scolaire qui ne fait pas redoubler ses élèves réussit mieux qu'un système scolaire qui les fait redoubler. Or, comme ça coûte très très cher, les redoublements, on se dit que ça ne sert à rien, que c'est complètement inefficace, donc il faut supprimer les redoublements. Donc, du coup, c'est dans la loi de finances un objectif. On a encore celui de favoriser la poursuite des études ou l'insertion professionnelle à l'issue de la scolarité secondaire des jeunes. Bon, c'est pour vous donner un petit peu une liste d'objectifs comme ça, déterminés à l'intérieur dans le cadre des finances. On a aussi des objectifs qui sont déterminés dans le cadre des programmes de chaque discipline. Par exemple, c'est juste un exemple, dans l'enseignement du latin, c'est fixé par arrêté en 2007, donner un bagage de 1600 à 1800 mots aux élèves de terminale. Mais il y a une multitude d'objectifs qui sont définis un peu partout dans les programmes d'enseignement. En bref, donc, beaucoup de finalités sont assignées à l'éducation, qui traduisent en réalité une accumulation de textes de loi, ou pas d'ailleurs, de loi ou pas, sans refléter, me semble-t-il, du tout, l'évolution prise dans les faits par l'éducation nationale dans ses missions. Et pour vous citer un exemple, je crois que cette évolution est très bien exprimée, mais c'est un exemple, on peut en trouver mille, dans l'introduction d'un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes en juin 2010, hein, juin dernier donc, et qui s'appelait « L'éducation nationale face à l'objectif de la réussite de tous les élèves ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été pas mal médiatisé, ce rapport. Il montrait que... Enfin, disons que les médias en avaient tiré que la France était particulièrement mauvaise à faire réussir tous les élèves. Mais voici comment commence donc ce rapport, hein, la première phrase. « Scolarisant 10 millions d'élèves, employant plus de 730 000 enseignants, doté d'un budget de près de 53 milliards d'euros en 2010. » Voilà des statistiques et des chiffres. « L'enseignement public est un enjeu central pour l'avenir de notre pays. » C'est un enjeu central parce qu'on dépense beaucoup d'argent. « Le développement des sociétés actuelles dépend en effet de plus en plus du niveau de formation de leur population dans un contexte mondial où l'accès à la connaissance constitue un facteur concurrentiel déterminé. » Donc, on voit ici, dans ce passage, que ce qui est défini comme la mission principale ou l'objectif principal de l'enseignement public, c'est pas du tout, comme le disait le Code de l'éducation au départ, la transmission des connaissances ou encore la formation du citoyen, mais c'est quoi ? C'est la compétitivité économique permise par l'élévation du niveau d'études. La compétitivité économique, hein, un facteur concurrentiel déterminant, c'est ça. Alors, par ailleurs, je vous parlais des compétences à l'heure, de l'école des compétences. Le passage d'une école de la transmission des connaissances à une école de l'acquisition de compétences utiles à la réussite dans la vie, dont le critère de mesure fondamentale va d'ailleurs être quoi ? La réussite dans la vie. Vous savez, ça veut dire quoi ? Réussir dans la vie. Des compétences à réussir dans la vie. Il faut savoir qu'on mesure ça comment ? Par l'employabilité. Le critère qui permet de savoir que l'école a réussi à faire réussir ses élèves, les jeunes qui sortent de l'école, c'est est-ce qu'ils seront employables et quel niveau d'emploi ils auront effectivement dans la société, quel salaire ils ont. Voilà. Eh bien, ce passage donc, d'une école de la transmission des connaissances à une école de l'acquisition de compétences est tout à fait révélateur de cette évolution dont je vous parlais. Donc je vous en parlais tout à l'heure. Oui, ce passage il s'est fait par l'adoption en France, en tout cas en 2005, d'un socle de connaissances et de compétences qui appliquait les recommandations européennes sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Et l'objectif fondamental de ces compétences clés, c'était quoi, hein, c'est dans le préambule des recommandations européennes, faire de l'Europe une société de la connaissance en misant sur sa ressource économique principale, la ressource humaine. Qu'est-ce qu'on entend par société de la connaissance ? Aujourd'hui, c'est un mot qu'on rencontre énormément dans les textes de ce genre. La société de la connaissance, en réalité, c'est pas une société dans laquelle les gens font plein d'universités populaires, c'est pas ça. On utilise cette expression qui est d'ailleurs synonyme de économie de la connaissance pour parler d'une économie qui fonde sa compétitivité sur la ressource humaine. Autrement dit, l'idée de fond, c'est que plus il y a de compétences globales dans une société, hein, et plus il y a de compétitivité économique. La compétitivité est fonction du niveau de compétence d'une population. Mesure économique de la ressource humaine, c'est la compétence. À noter que ces compétences clés, d'ailleurs, qui ont été définies par l'Europe, ne sont pas au départ une politique d'éducation, mais sont une politique liée à la gestion du travail humain, des compétences, enfin des ressources humaines au travail, quoi. Et d'ailleurs, l'éducation est devenue, depuis au moins le sommet de Lisbonne, c'est devenu une rubrique de la formation en général. C'est-à-dire, on parle de formation initiale maintenant pour l'éducation, l'éducation assurée par le service public. Vient après, donc la formation continue, et puis la formation tout au long de la vie, celle qu'on acquiert avec l'expérience, etc. Et par ailleurs, ces compétences clés sont le fruit de décisions de fonctionnaires des institutions européennes en dehors de tout dispositif démocratique. C'est quand même important de le signaler. En l'occurrence, donc, c'est suite à une table ronde des patrons européens que ces compétences clés ont été décidées, ont été mises en place. Deuxième question, c'était qui définit les objectifs de l'éducation nationale ? Alors, si on reste au niveau institutionnel, on voit bien que ça dépend de quels objectifs on parle. D'abord, il y a effectivement les objectifs généraux sur lesquels la nation légifère, hein, et ce sont ceux qu'on va retrouver dans le Code de l'éducation. Il y a ensuite tous les objectifs fixés par les instances financières, administratives, pédagogiques, à différents niveaux, qui vont de l'administration centrale du pays aux établissements scolaires, en passant par les rectorats, c'est-à-dire l'administration décentralisée. Et puis enfin, dans les classes, à l'intérieur des classes, il y a les objectifs que l'on demande aux enseignants de définir dans leur pratique pédagogique. Hein, quels objectifs ils se donnent à telle leçon ? Je vais atteindre quels objectifs à la fin de ma leçon ? Et pour ceux qui ont des cours derrière eux qui ne sont pas très éloignés, ils savent que, ou peut-être ils se sont rendus compte que un professeur marque les objectifs en début de cours avant d'essayer de les atteindre, quoi. Ces objectifs étant relativement libres, même s'ils doivent entrer dans le cadre des objectifs définis plus généralement par les programmes d'enseignement, par les programmes de chaque discipline. Cela dit, il faut bien comprendre que jamais des objectifs ne se baladent tout seuls dans la nature. C'est-à-dire que s'il y a comme ça une définition d'objectifs à tous les niveaux, hein, en partant des objectifs les plus généraux aux objectifs que l'enseignant se donne dans sa classe pour l'heure de cours. S'il y a comme ça des objectifs à tous les niveaux, c'est pas parce que c'est là l'unique façon de travailler et qu'on ne pourrait pas travailler si on n'avait pas d'objectifs ou si on ne se donnait pas d'objectifs. Enseigner par objectif, gérer les institutions éducatives par objectif, c'est en réalité une façon de donner une forme à l'éducation en la ramenant à une logique de quoi ? Ben d'efficacité. Parce que l'efficacité, c'est quoi ? C'est atteindre ses objectifs. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'efficience. L'efficience, c'est encore mieux. C'est atteindre ses objectifs avec moins de moyens. En moyens, on supprime des profs et tout, et on cherche à être efficient. On atteint les objectifs, mais avec moins de moyens. Enfin bref, la petite musique, quoi, que vous connaissez peut-être déjà. Et alors, on voit qu'à partir du moment où on parle d'objectif, ça veut dire que tout va rentrer dans un calcul d'efficacité. On fait tout rentrer, on veut tout faire rentrer dans un calcul d'efficacité. Autrement dit, dans une logique économique. Y compris l'acte éducatif, l'acte de transmission, qui est quand même difficile à faire rentrer là-dedans. C'est compliqué, quoi. Ça demande beaucoup de travail et bien souvent, l'enseignant se rend compte que ça empêche de faire du bon travail, en fait. C'est donc une forme de violence faite et à l'enseignant et à l'élève. Parce que si l'élève sort des objectifs dans sa remarque ou dans son travail, c'est pareil, quoi. C'est pas ça qu'il fallait faire parce que c'était pas l'objectif. En l'occurrence, je vous parlais des compétences, c'est le cas avec les compétences, puisqu'elles font rentrer justement, et c'est pour ça qu'elles ont tant de succès aujourd'hui, elles font rentrer l'apprentissage lui-même, dans une logique d'efficacité. Dès que l'objectif a été fixé, en amont, on parle d'ailleurs de référentiel de compétences, ou alors de compétences attendues, hein, vous voyez, c'est-à-dire c'est l'objectif, quoi. Il faut faire acquérir la compétence attendue. Défini en amont, on peut se demander par qui. On a vu que c'était principalement par les patrons et par les États, mais dans une logique économique. Eh bien, on définit quoi? Dès qu'on a fixé les objectifs, on définit des indicateurs de performance. C'est-à-dire à quoi est-ce qu'on voit, on s'aperçoit que les objectifs ont été atteints, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une performance qui permet alors d'évaluer si la compétence est acquise. Et donc on évalue. Et si la compétence n'est pas acquise, c'est que l'investissement n'était pas justifié. Autrement dit, l'objectif de réussite des élèves n'a pas été atteint. C'est ça la logique. Alors, cette logique, elle est violente. Elle est violente pourquoi? Parce qu'on ne prend pas du tout en compte la situation. La durée qu'il faut pour que, si on met en place quelque chose, ça ait des effets, quoi. Soit efficace en un autre sens, c'est-à-dire au sens où ça ait des effets. Le lieu, est-ce qu'on est dans un quartier chic, est-ce qu'on est dans un quartier pauvre, ghettoisé, etc. C'est-à-dire, où est-ce qu'on mesure, quoi. Et puis, tout simplement, le caractère organique de la transmission. C'est-à-dire, on ne peut pas évaluer une transmission de savoir comme on évalue la fabrication d'une voiture. Et pas seulement parce qu'on transmet auprès d'humains, c'est-à-dire qu'il y a effectivement travail avec l'humain. Mais aussi parce que tout simplement, enseigner, c'est quelque chose de vivant. Et que le résultat n'est pas juste le fruit d'une accumulation de techniques, mais il y a une action réciproque entre ce qu'on fait et les résultats, de telle sorte qu'on ne peut pas maîtriser précisément l'enseignement ou la transmission de quelque chose. Ça doit prendre, hein, comme disent les enseignants. Non, ça n'a pas pris. Parfois oui, parfois non. Et on ne sait pas pourquoi. Et on a 20 ans de carrière et on ne sait toujours pas pourquoi. Une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. C'est comme ça, quoi. C'est la vie. Donc, formatage par les objectifs. Et ça, je pense que c'est très important de l'avoir bien en tête. Par ailleurs, par rapport à la question de savoir qui fixe les objectifs, je crois que... il ne faut pas non plus tomber dans le piège de croire que c'est l'institution qui, en quelque sorte, comme ça, abstraitement, dans un acte originaire, voilà, comme ça, aurait le pouvoir de fixer les objectifs. Pourquoi ? Parce que le pouvoir n'est jamais quelque chose qui est donné, en fait. C'est quelque chose qui est construit. C'est-à-dire, le pouvoir, il existe parce que tout un ensemble de rapports de pouvoir, diffusé à l'intérieur de la société, sans que personne ne l'ait vraiment décidé, mais parce que la société s'est structurée comme ça, permettent à un pouvoir de s'exercer de telle ou telle façon, et permettent donc à une institution, effectivement, d'avoir tel ou tel pouvoir. Et ça, c'est très important, c'est ce que Michel Foucault, qui est un philosophe assez récent, qui est mort début des années 80, appelait un réseau de micro-pouvoirs. Alors il écrivait ceci, notamment, « Le pouvoir n'est jamais ce que quelqu'un détient. Ce n'est jamais non plus ce qui émane de quelqu'un. Le pouvoir n'appartient ni à quelqu'un, d'ailleurs, ni à un groupe. Il n'y a de pouvoir que parce qu'il y a dispersion, relais, réseau, appui réciproque, différence de potentiel, décalage, etc. etc. » C'est dans ce système de différence que le pouvoir peut se mettre à fonctionner. Pour revenir à l'école, pour reprendre l'exemple de l'école, ce pouvoir, par exemple, pour les patrons aujourd'hui, de définir des référentiels de compétences pour le lycée professionnel. Ce pouvoir qui est à partir des années 70 qu'auront les patrons de définir des référentiels de compétences. Ou encore celui qu'ont les institutions européennes de fixer par intérêt économique les objectifs pédagogiques de l'éducation nationale française. Voilà qui donne à réfléchir, c'est-à-dire quels déplacements de pouvoir se sont opérés dans ces nouveaux rapports, dans ces nouveaux réseaux, dans ces nouvelles relations. Et c'est comme ça, c'est par cette analyse qu'on comprend comment naît une nouvelle forme de pouvoir. En l'occurrence, celui qu'ont aujourd'hui, finalement, qu'a aujourd'hui l'économie, pour le dire comme ça, la macroéconomie, hein, qu'a aujourd'hui la macroéconomie de définir la mission de l'école, finalement, à savoir l'employabilité. Donc je pense que là, il y a peut-être quelque chose de très intéressant pour une recherche d'université populaire, c'est-à-dire essayer d'analyser justement ces nouveaux systèmes de rapport, ces nouveaux systèmes, ces nouveaux réseaux, ces nouvelles relations qui font qu'un nouveau pouvoir s'est instauré dans la société, qui donne à l'école, effectivement, une nouvelle mission, quoi. Alors votre troisième question, c'était rôle et place des enseignants et des parents à l'école. Alors là encore, il y a un décalage entre ce que vont dire les textes de loi et la réalité. D'abord, les enseignants. Pour les enseignants, je ne sais pas si vous le savez, il y a un grand principe qui est celui de la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'a priori, l'enseignant est libre de la pédagogie qu'il met en œuvre dans sa classe. Ce principe est posé donc, dans le code de l'éducation, mais nulle part il n'est défini. Il reste à la fois abstrait et non encadré juridiquement. Et de fait, il est de plus en plus remis en question à travers les injonctions multiples qui assaillent l'enseignant de tous les côtés. Alors c'est le cas justement, on parlait du socle de connaissances et de compétences tout à l'heure, c'est le cas du socle. Donc je vous ai parlé des évaluations du livret de compétences au collège. Les professeurs sont obligés de trouver du temps pour évaluer donc, les compétences. Ils n'ont aucune idée comment ils peuvent faire pour évaluer des compétences qui dépendent à la fois de tout le monde et à la fois de personnes en particulier. Enfin, et en même temps, il faut qu'ils le fassent parce que de toute façon, c'est devenu obligatoire pour le brevet. Donc s'ils ne le font pas, l'enfant il n'a pas son brevet. Enfin, l'élève il n'a pas son brevet, donc il y a qu'il le fasse. C'est le cas aussi, vous devez vous souvenir de ce débat-là qui a eu, médiatique qui a eu lieu, des évaluations en primaire pour lesquelles il y a des instituteurs qui se sont soulevés, qui ont désobéi, qui se sont fait punir aussi d'ailleurs, les désobéisseurs, parce que ces évaluations, comme elles portaient sur des choses qui n'avaient pas forcément été vues en classe, bah, du coup elles mettaient les élèves dans des situations de stress et d'angoisse assez terribles. Et ça rompait aussi le contrat avec le maître, parce que tout d'un coup, que le maître il fasse faire des évaluations sur quelque chose que les enfants n'ont pas vu, c'est une petite trahison, en fait. Donc, voilà. Bon. Mais en même temps, ils étaient obligés. Voilà. Et donc, toutes ces injonctions, en fait, multiples, il y a maintenant l'espace numérique de travail, comme on dit. Hein. C'est-à-dire tous les enseignants sont censés se mettre au numérique et de plus en plus mettre leurs cours en ligne, mettre en place un travail numérique avec les élèves, remplir leurs cahiers de texte en ligne, bon, etc. etc. Bon, bref. Tout un ensemble comme ça d'injonctions de tous côtés qui font que finalement la liberté pédagogique de l'enseignant, ça devient quelque chose de plus en plus abstrait. Et on a l'impression que l'enseignant, il est pris un petit peu en sandwich entre une multiplicité toujours accrue de contraintes disciplinaires qui lui laisse de moins en moins de liberté et de moins en moins de marge de manœuvre, et d'un autre côté, une difficulté de plus en plus grande sur le terrain à se faire respecter par les élèves et à faire son cours, c'est-à-dire à enseigner. Hein. C'est-à-dire la plupart des enseignants, ils disent on n'enseigne plus, on n'arrive plus à enseigner, on ne peut plus enseigner. Mais entre ça, cette réalité, cette difficulté sur le terrain et les injonctions, ils sont pris en sandwich, c'est-à-dire c'est pas comme si les injonctions pouvaient effectivement les aider ou leur donner justement un espace pour pouvoir aborder ces problèmes et les prendre en charge, mais ce sont vraiment, ils sont vraiment pris en sandwich entre les deux, quoi. Et d'ailleurs, à noter dans ces contraintes disciplinaires dont je vous parlais, ces injonctions, la place de plus en plus grande prise dans le travail enseignant par l'évaluation d'un côté. Il y en a qui ont l'impression de passer leur temps à évaluer, chose qui enlève du temps à l'enseignement. Et l'orientation, c'est pareil. C'est-à-dire le travail d'orienter les élèves, de plus en plus, est devenu un travail qui prend à tel point que le temps d'enseignement et de transmission est énormément raccourci par ces deux... ces deux fonctions supplémentaires qui lui sont données. Sans compter que il y a effectivement ce changement de paradigme qui est en train de s'introduire là en ce moment dans l'école française, mais enfin ça se passe dans l'école mondiale, de la transmission des savoirs à l'acquisition de compétences, pour lesquelles de véritables campagnes en ce moment en France, de véritables campagnes de communication sont réalisées. On vient expliquer aux profs que la transmission c'est pas bien, c'est le prof sur son estrade qui fait son cours magistral, qui ne se préoccupe pas de l'activité des élèves, de ce qu'ils apprennent réellement, de si ça leur sert à quelque chose dans la vie. Il faut vraiment qu'ils arrêtent tout ça. Et il faut qu'ils passent aux compétences, que les compétences, c'est le contraire. C'est la mise en activité de l'élève. C'est enfin s'intéresser à ce qu'il apprend réellement, hein, quelles sont les compétences qu'il va acquérir. Et puis, bah, quelle utilité ça aura dans sa vie, parce que ça va lui servir à quelque chose, ses compétences. Sauf que, à travers cette campagne de communication, on ne s'intéresse pas du tout à l'expertise enseignante, et ça c'est terrible. À l'expertise enseignante, c'est justement ce savoir que vous allez chercher par vos enquêtes dans l'université populaire, et que possèdent les enseignants sur leur travail, qui est un savoir véritablement assujetti pour le coup, c'est-à-dire un savoir auquel on ne laisse pas la possibilité de se transformer en expertise, en savoir qui construirait le changement, un savoir qui permettrait réellement d'affronter les défis qui sont ceux de l'école aujourd'hui et de permettre de régler un petit peu tous ces problèmes terribles qu'il y a aujourd'hui dans l'école. Le désintérêt, les violences, les changements de pratiques des élèves liés aux nouvelles technologies, c'est quelque chose de terrible. Ça, les élèves passent de moins en moins de temps à travailler parce qu'ils sont aussi de plus en plus de temps sur leur ordinateur, sur les chats, etc., etc. Et c'est quelque chose par rapport à quoi il y a quasiment pas de travail qui est fait parce que justement, c'est pas l'objet d'une réflexion alors que c'est un véritable problème. Bon, etc., etc. Et pour vous donner un petit exemple comme ça de ce mépris de ce que les enseignants font et savent, autrement dit de leur travail concret et réel, l'autre jour j'étais, donc c'est une discussion avec ma proviseure, et il se trouve que je fais travailler mes élèves sur un projet, c'est en philosophie, mais c'est réfléchir sur l'école, et en l'occurrence sur toutes les grandes questions liées à la pédagogie, etc. Et notamment, voilà, faut-il que l'élève soit actif dans son enseignement ou pas ? Alors les élèves font un échange avec un lycée expérimental qui s'appelle le lycée autogéré de Paris. Le proviseur n'était pas... Enfin, ça lui plaisait moyennement, cet échange. Et donc j'essaye de lui dire que c'est important pour les élèves qu'ils puissent penser, par exemple, s'il est bon que l'élève soit actif dans son enseignement, etc. Et là, elle me dit, mais enfin, la question est réglée. Bien sûr que oui. Je dis oui, mais peut-être que oui, mais en l'occurrence, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, l'élève n'est pas du tout actif. Et en plus, c'est pas évident d'ailleurs qu'il ait forcément envie, comme ça, de s'y mettre à l'activité. C'est-à-dire, il y a tout un travail pédagogique à faire, etc. Et bon, elle ne voulait pas entendre ça, c'est-à-dire à partir du moment où c'est réglé que l'élève doit être actif, peu importe ce que les enseignants vivent sur le terrain, peu importe la réalité de la situation, il n'y a pas de prise en compte de la connaissance concrète, hein, la connaissance qui vient avec l'expérience à l'intérieur d'une salle de classe, quoi. Alors les parents maintenant. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais dans le code de l'éducation, toujours à l'article 1, les familles sont associées aux missions de l'école. Elles sont même dites faire partie, avec les élèves et les personnels d'éducation, de la communauté éducative. De fait, d'ailleurs, cette reconnaissance, qu'elle a quand même une certaine... Il y a une évolution, même si elle reste juridique. Pas seulement, hein, je vous dirai ensuite les applications quand elles sont faites. C'est le fruit de la lutte des courants de l'école nouvelle dans les années 70 pour ouvrir l'école sur l'extérieur, et notamment pour l'ouvrir aux parents. Donc, je disais, c'est pas seulement juridique, parce qu'effectivement, les parents sont représentés désormais dans les institutions éducatives. Dans les conseils d'école, ils sont présents. Dans les conseils d'administration, enfin, ils sont présents, ils sont représentés, quoi. Et dans les conseils de classe. Mais cette représentation n'est pas grand-chose par rapport à l'idée de départ, hein, qui était de permettre réellement aux parents de participer à l'entreprise éducative qui est celle de l'école. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler du travail que fait Yvan Nemo, qui est directeur d'école dans le groupe scolaire de Torcy, donc pas très loin d'ici, qui est un travail expérimental très intéressant, une école dans laquelle les parents ont été invités progressivement à s'investir. Et cet investissement est quelque chose qui a donné notamment, qui a changé la réalité de l'école, qui est une école dans laquelle la violence est terrible, qui est devenue une école dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle les élèves sont heureux d'aller. Et ce travail avec les parents a été absolument essentiel pour permettre justement ce basculement. Et au départ, les parents étaient, pour eux, comme pour tous les habitants du quartier, l'école, c'était la forteresse qu'on assiégeait, c'était l'ennemi, c'était, etc. Et c'est devenu un lieu de vie dans lequel on a envie d'aller, qui fait partie du quartier, autour duquel le quartier est même, se sent même plus ou moins centralisé, en fait. Et voilà, donc il y a véritablement un travail à faire pour intégrer les familles, les parents, et voire même d'ailleurs l'environnement, le quartier à l'école, qui est loin d'être réalisé. Et c'est pas parce qu'il y a des représentations dans les conseils d'école, les conseils d'administration et les conseils de classe que ça change quoi que ce soit. En revanche, par rapport à cette place des parents, de plus en plus de dispositifs vont donner aux parents un rôle de contrôle du travail de l'enfant, qui est l'élève donc pour les professeurs. Je parlais tout à l'heure de l'espace numérique de travail. Il y a quelque chose qui s'appelle Cartable en ligne, qui, d'ailleurs je crois que c'est un produit Microsoft, qui donne aux parents un regard sur le travail de l'enfant, un regard accru, un regard, j'ai envie de dire un contrôle, un regard de contrôle possible sur le travail de l'enfant et ses évaluations. Dans un esprit tout à fait inverse à celui des courants pédagogiques que je citais, ou des expérimentations de l'ouverture sur l'école, quoi. Parce que c'est pas effectivement l'ouverture, le décloisonnement, c'est plutôt une fausse ouverture qui permet un contrôle diffus, en fait. Et finalement, dans cette association des parents à l'entreprise éducative, on trouve, en fond, on trouve quoi ? On trouve la menace, hein, on trouve la punition. Qui est le vieux moteur des systèmes disciplinaires. Effectivement, si les parents sont démissionnaires, on voit aussi comment les politiques vont les traiter. Sont dits démissionnaires, hein, j'utilise le mot à dessein. Les stages de parentalité, la suppression des allocations si absentéisme à répétition, etc. etc. Donc cette association des parents à l'entreprise éducative, elle est vraiment d'un esprit inverse, dans le sens où, effectivement, derrière, on voit bien que c'est la menace, c'est la punition, parce que le parent, il doit exercer un contrôle dans le même esprit, en fait, que l'esprit d'évaluation et de contrôle qui est celui de l'école. Encore une forme de violence, me semble-t-il, mais pas une violence brutale et discontinue, mais plutôt une espèce de harcèlement continu, en fait. Hein, c'est-à-dire... Quatrième question... Alors ça s'assuit en fait un petit peu celle-ci, c'est toujours sur les parents, c'est le problème lié aux attentes des parents. Les parents veulent que l'école permette à leurs enfants d'obtenir un travail, etc. Alors, si on parle effectivement de la place qu'ont, parce qu'ils la prennent, j'ai envie de dire, les parents dans l'école, on s'aperçoit que c'est de plus en plus comme des consommateurs qu'ils se comportent. Alors, je parle du plus gros des parents, parce qu'en réalité, il y a toujours plein d'exceptions, Mais disons que de manière générale, il y a une tendance hein, à ce que ce comportement s'installe, comportement de consommateur. L'école est perçue par eux comme le produit d'une technique, plus ou moins bien maîtrisée par l'enseignant d'ailleurs, qui plus ou moins efficace, dont le résultat peut être jugé en toute objectivité sur la réussite de leur enfant. Ou réussite, ça veut dire quoi? Ça veut dire note, est-ce qu'il a des bonnes notes? Ça veut dire évaluation, est-ce que ses évaluations sont bonnes? Passage en classe supérieure, est-ce qu'il passe, est-ce qu'il redouble? Réussite aux examens, grandes écoles, et finalement quoi? Employabilité. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub d'Acadomia. Vous savez, Acadomia, c'est une entreprise de cours particuliers qui disait 100% de réussite au bac, satisfait ou remboursé. C'est, à la fois, on s'aperçoit que cet esprit donc, de consommateur, bon, ce n'est pas non plus quelque chose de très, comment dire, de très inventif, quoi. C'est, en réalité, c'est l'esprit même de l'éducation aujourd'hui dans la société. Et alors, du coup, ça donne quoi comme comportement? S'il n'y a pas de réussite, on râle, au mieux. On se plaint au chef d'établissement, on entame des procès, c'est-à-dire de plus en plus de comportements comme ceci qui introduisent de la violence dans l'école, au sens où ça introduit de l'affrontement, c'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure que l'école avait tout intérêt à s'ouvrir sur les parents, c'est effectivement dans un esprit différent, c'est plus dans un esprit de conflit au contraire, c'est-à-dire permettre que différents points de vue sur l'école se confrontent, le point de vue des parents n'étant pas celui d'enseignant, c'est très important, de même que le point de vue d'élève, etc., mais pas un affrontement comme celui-ci qui, au contraire, celui-ci crée de la violence. Alors ça, cela dit, ce comportement, c'est généralement pour les bourgeois, hein, parce que les classes populaires sont, elles, perdues. Mais une chose est sûre, c'est qu'elles ne font plus confiance à l'école. Ça, c'est sûr, par contre. Parce que l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social, pour des raisons qui sont liées tout simplement à la crise. Alors, cinquième question, l'employabilité des jeunes qui sortent de l'école, que veulent les patrons? Qu'est-ce que l'école met en place pour satisfaire les patrons? Comment les patrons des entreprises ont-elles fait l'école d'aujourd'hui? Alors là, je reviens un petit peu sur l'école des compétences, finalement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur les analyses que j'ai faites dans mon livre. Donc, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en gros, hein, il y a eu un profond changement dans la vision qu'on a de l'éducation. Au départ, et en particulier dans la vision qu'ont les États de l'éducation. Avant, l'éducation était considérée comme une dépense publique, simplement une dépense. À partir de la Seconde Guerre mondiale, en gros, elle va être considérée comme un investissement. L'éducation, c'est un investissement. Pourquoi? Parce que on va finalement considérer la connaissance comme une forme d'investissement sur un capital nouveau, qui n'est pas un capital matériel, mais qui est un capital humain et plus exactement un capital cognitif. C'est donc la notion de capital humain, capital cognitif qui va apparaître, qui va être une notion inventée par les économistes. Et l'éducation va progressivement être vue comme investir sur une forme de capital qui est le capital cognitif. Et de cet investissement, on peut attendre quoi? Au niveau de l'État, on peut attendre plus de croissance. Au niveau de l'entreprise, on peut attendre plus de compétitivité. Et au niveau de l'individu, il peut attendre plus d'employabilité, une employabilité accrue. Alors ce déplacement dans la vision de l'éducation va effectivement donner une place centrale à l'entreprise dans la définition des contenus de l'école et du système d'évaluation qu'elle met en place. C'est toute l'histoire du succès des compétences dans l'école. C'est comme ça que dans les années 80, avec le nouveau management des entreprises, vont pas exactement apparaître les compétences, mais en tout cas vont effectivement prendre une importance décisive. L'évaluation par compétences dans l'entreprise marque le passage à une logique de compétitivité basée sur le capital cognitif de l'entreprise. C'est-à-dire quoi ? Le capital cognitif de l'entreprise, c'est la somme des compétences de ses employés. Ensuite, ça va s'imposer dans l'école, à travers d'abord l'enseignement technique et professionnel. Et c'est comme ça que, collégialement, entre guillemets, des référentiels de compétences vont être définis par les patrons et les professionnels du professionnel et du technique, de l'école, enfin de, du lycée professionnel et technique. En 1998, par exemple, des journées internationales sont organisées à Deauville par le CNPF, donc ancien DEF, qui porte sur les compétences et l'importance de la formation par compétences. Pourquoi c'est si important pour l'entreprise ? Et du coup, ça devient un enjeu aussi pour les entreprises, ça devient un enjeu de former par compétences dans l'école. Pourquoi c'est si important ? Parce que former des compétences, c'est augmenter le capital cognitif de l'entreprise. C'est donc finalement viser plus de compétitivité dans le modèle. Et puis, de l'enseignement professionnel, ça va passer dans l'enseignement général, avec toutes ces définitions de socles de compétences, ou alors compétences clés qui vont être définies, soit par les institutions européennes, soit par l'OCDE. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais les évaluations internationales des systèmes scolaires, donc, plus exactement on l'appelle PISA, les évaluations PISA sont des évaluations par compétences, et les compétences en question ont été définies par l'OCDE. À partir de 1997, il y a eu un grand symposium qui a été créé. Ils ont défini des compétences, trois grandes compétences clés à réussir dans la vie. C'est là donc que la réussite dans la vie a été indexée sur l'employabilité. Et puis, à partir de là, on a défini effectivement des évaluations internationales. Et aujourd'hui, quand on dit la France pas bien classée, etc., en fait, c'est à ça qu'on fait référence. Alors c'est, voilà, bref, je crois que... De toute façon, si vous pensez que j'ai pas tout à fait répondu aux questions, etc., on en reparle après. Et puis, donc la dernière question que vous m'aviez posée, c'est en quoi est-ce que l'école des compétences participe à la rupture du lien social ? Alors l'école des compétences, même si elle se présente comme le ciment de la nation, participe en réalité à la rupture du lien social et c'est, me semble-t-il, toute l'essence de la violence qu'elle va générer, justement. C'est-à-dire, si cette logique ou ce paradigme est si violent, c'est précisément en tant qu'il crée ou qu'il participe à la rupture du lien social. Tout d'abord, il y participe par sa logique normalisatrice. Il est normal d'être comme ci et il n'est pas normal d'être comme ça. Il est normal de posséder telle ou telle compétence, prendre la parole en public, savoir gérer ses émotions, aimer apprendre, vouloir s'engager dans un projet, indépendamment d'ailleurs de la singularité de la personne. Il faut que tout le monde ait ces compétences-là. Qu'il soit, indépendamment de la normalité des conflits entre capacités, c'est-à-dire on peut avoir telle capacité parce qu'on n'a pas telle autre, précisément. On peut aimer prendre la parole en public parce qu'à la fois on ne sait pas gérer ses émotions ou inversement. On peut aimer apprendre ceci parce qu'on n'aime pas apprendre cela. On peut vouloir s'engager dans tel projet, mais alors pas du tout dans tel autre. Vous voyez ? C'est-à-dire ce conflit finalement tout à fait normal entre compétences, entre guillemets, n'est absolument pas pris en compte. Indépendamment aussi de la situation concrète dans laquelle les capacités vont prendre sens et s'exercer, c'est-à-dire aimer apprendre, d'accord, mais peut-être dans telle situation plutôt que dans telle autre, parce que dans cette classe c'est sympa, parce que le prof est sympa, parce qu'aujourd'hui on est réveillé, parce qu'on a pris intérêt à la chose, parce que j'en sais rien, c'est-à-dire si concrètement et situationnellement, c'est déterminant le pourquoi on va développer telle ou telle capacité. Or là, il n'y a aucune prise en compte de ça. La différence entre compétence et capacité, Je trouve qu'il y a un petit apologue du sage taoïste Chuang Tzu qui aide à bien la comprendre. C'est quelqu'un qui demande pourquoi est-ce que le mille-pattes a besoin de 1000 pattes pour s'accrocher au sol, alors que le serpent, lui, il s'accroche au sol sans pattes. Les pattes, c'est les compétences. S'accrocher au sol, c'est les capacités. On peut avoir telle ou telle capacité indépendamment des compétences qu'on a pour les exercer. Les compétences sont abstraites, les capacités sont concrètes. Alors, à partir de là, effectivement, on a un jeu de normalisation. Hein, c'est normal d'avoir telle compétence, pas normal de ne pas l'avoir, qui va forcément placer à l'extérieur tous ceux qui n'entrent pas dans cette norme. Et on voit bien comment fonctionne, par exemple, l'éducation spécialisée aujourd'hui de plus en plus, autour de cette idée que si vous n'avez pas les compétences, c'est que vous avez des besoins éducatifs particuliers. Il faut définir vos besoins éducatifs particuliers en fonction de votre manque de compétences et quel dispositif on va pouvoir mettre en œuvre pour vous aider à acquérir la compétence en question. Par exemple, pour un sourd, la langue des signes, ça va être le dispositif qui lui permettra d'acquérir la compétence linguistique. Comme si la langue des signes, ça ne pouvait pas être tout simplement sa langue plutôt qu'un dispositif parce qu'il a un besoin éducatif particulier. Donc on voit comment cette population de tous ceux qui n'entrent pas dans cette norme va être prise en charge à part. Il va y avoir un suivi spécial pour eux. Ils vont avoir des besoins éducatifs spécialisés. Et selon quelle norme, finalement la norme de l'acceptabilité sociale. Quelles compétences il faut pour être acceptable socialement. Et finalement, être acceptable socialement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être employable. Quand ce n'est pas rejet pur et simple, soit on met à part et on traite de manière spéciale, soit on rejette. C'est à cet égard, ce qui est écrit dans le préambule du socle de connaissances et de compétences est quand même assez extraordinaire. Le socle est présenté comme donc l'ensemble de ces compétences-là, ce que nul n'est censé ignorer en fin de scolarité obligatoire, sous peine de se trouver marginalisé. On dit, s'il n'a pas toutes ces compétences-là, il ne faudra pas qu'il s'étonne d'être à la marge. Donc, première chose qui crée du lien social, qui rompt le lien social, c'est effectivement cette distinction entre ceux qui entrent dans la norme parce qu'ils ont les bonnes compétences et ceux qui sont à l'extérieur de la société, qui sont exclus parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. Ensuite, rupture du lien social par la logique individualisante qui va avec les compétences. Alors ça, c'est quelque chose que Michel Foucault, dont je vous parlais tout à l'heure, le philosophe, a analysé, notamment dans un livre qui s'appelle « Surveiller et punir », mais aussi dans ses cours, les cours qu'il a donnés au Collège de France, à travers l'analyse de ce qu'il appelle la société disciplinaire. Et qu'il situe avec, en gros, la naissance de la période moderne. Une société dont le pouvoir va se déplacer, d'un pouvoir lié à un souverain, pouvoir de souveraineté, à un pouvoir lié à la discipline. Une discipline qui n'est plus exercée par quelqu'un, ou en référence à quelqu'un, mais qui est exercée de manière diffuse dans des lieux d'enfermement. C'est comme ça que effectivement vont apparaître une école liée à un enfermement dans un lieu, une prison liée à un enfermement dans un lieu, un hôpital liée à un enfermement dans un lieu, une usine liée à un enfermement dans un lieu, etc. Et dans lesquels un pouvoir de discipline va s'exercer en continu sur le temps des individus. Alors, je dis individu, mais en réalité, vous allez voir que pour lui, l'individu est une création de la discipline, justement. Il va s'exercer sur le temps, sur la vie et sur les corps, par des exercices continus, ayant pour but de faire rentrer ces derniers, donc ces corps, dans des habitudes. Et finalement, quand on prend le temps un petit peu d'y réfléchir, et je pense que là aussi, il peut y avoir tout un travail d'enquête qui est réalisé sur cette violence qui est exercée sur les élèves par les horaires, le cloisonnement des disciplines, ils vont d'une discipline à l'autre, comme ça, sans qu'aucun rapport ne soit fait entre l'une et l'autre. La violence des notes, des classements, des punitions, des remontrances, toutes ces choses qui sont effectivement des créations de la société disciplinaire et qui s'exercent sur des individus tout en créant les individus. Parce qu'un classement, par exemple, c'est pas seulement quelque chose qui s'exerce sur un individu en disant « tu es là », c'est aussi quelque chose qui va créer l'individu en le distinguant d'un autre individu, en le classant. Et effectivement, c'est la société disciplinaire qui va donner cette place à l'évaluation qui nous paraît tellement aujourd'hui. On dit « ah, comment on pourrait ne pas évaluer sans évaluation, qu'est-ce qu'on ferait, comment on saurait si quelque chose est efficace, etc. etc. » Mais l'évaluation, c'est une création de la société disciplinaire. Et c'est l'évaluation qui crée justement des individus en les évaluant. Et en créant aussi ce que Michel Foucault appelle, c'est un mot un petit peu compliqué, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire, l'appelle une isotopie. C'est-à-dire que, en l'occurrence, par exemple, le classement scolaire, ça ne va pas seulement être un classement scolaire, mais ça va renvoyer à un autre classement, qui est le classement dans la société, à travers la mise en place des diplômes, qui vont faire que bah, si vous avez telle place dans l'école, vous allez avoir telle place dans la société. Donc il va y avoir une mise en rapport, un chevauchement entre le classement dans l'école et le classement dans la société. Avec les compétences, on fait semblant de sortir de cette logique, on fait semblant de sortir de cette logique, par exemple, de cloisonnement disciplinaire, on fait semblant de sortir de cette logique d'évaluation, on dit évaluer par compétence, c'est arrêter de noter, par exemple, c'est donc arrêter de discriminer les élèves. Et en réalité, c'en est simplement une autre forme, parce que évaluer par compétence, c'est créer la même isotopie entre les compétences qu'on va évaluer dans le système scolaire et les compétences qui vont être évaluées ensuite par l'entreprise et au moment de l'embauche. Par ailleurs, la logique des compétences, elle est au moins aussi individualisante. Qu'est-ce qu'on fait ? Que fait par exemple l'OCDE quand il dit « on va déterminer les compétences à réussir dans la vie ». Il fait comme si la réussite dans la vie, c'était quelque chose de purement individuel. Si vous réussissez, c'est grâce à vos compétences, c'est parce que vous avez les bonnes compétences pour réussir dans la vie. Si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous ne les avez pas. Et alors, donc la réussite dans la vie, elle est rabattue sur l'individu. Comme si le milieu, l'environnement, avec notamment le chômage, la misère, la pollution, les maladies émergentes, la dépression, tout ça, n'y était pour rien. C'est une question individuelle. Ce sont vos compétences qui expliquent votre réussite ou non dans la vie. Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que vous savez gérer vos émotions? Est-ce que vous vous engagez dans n'importe quel projet? Est-ce que vous aimez apprendre, quoi que vous appreniez? Et ainsi de suite. Mais dans un environnement qui est considéré comme neutre, en toute abstraction, parce que vous êtes un individu, justement. L'individu, c'est la chose la plus abstraite qu'on puisse imaginer. C'est quand on l'a retiré, justement, de son environnement, de son milieu, qu'on l'a détaché, abstrait, de son milieu. Alors ça casse le lien social, parce que une société d'individus, c'est effectivement une société dans laquelle les liens ne sont plus pris en compte. Les liens avec son environnement, les liens avec les autres, les liens avec son milieu, les liens avec son histoire, avec son passé, etc. etc. Créer de l'individu, c'est détruire du lien social. La logique des compétences, c'est finalement une logique qui met en compétition des individus avec d'autres. Enfin, dernière raison pour laquelle l'école des compétences, elle casse le lien social, par son utilitarisme. En effet, la compétence, c'est l'apprentissage pensé avec la notion de l'entreprise. Apprendre, c'est comme une entreprise, c'est comme être un petit entrepreneur de soi-même. C'est investir sur son capital à soi, cognitif, humain, et acquérir des compétences qui vont me permettre ensuite d'avoir un retour sur investissement qui s'appelle être employable. Et plus j'acquérirai de compétences, plus je serai employable sur le marché du travail. C'est ce qui permet aujourd'hui aux entreprises de dire « Bon, d'accord, on vous met dehors, mais enfin, on vous forme, donc vous augmentez votre capital cognitif, vous devenez plus employable, donc plus intéressant, etc. etc. » De la même façon, ça permet aussi aux entreprises de dire ben « Là, par exemple, il faut que vous vous formiez. Ah, vous n'avez pas envie de vous former à l'informatique ?» Oui, mais bon, vous comprenez bien qu'on a besoin de ces compétences-là pour l'entreprise, donc si vous ne voulez pas vous former à l'informatique, ben, du coup, vous allez voir ailleurs. Quoi. Et on appelle ça la formation, précisément. Donc, l'apprentissage n'est plus, à partir de là, il n'est plus, et c'est peut-être ça le nœud de l'affaire, c'est que c'est plus une affaire commune, mais ça devient une petite affaire individuelle, une petite entreprise de soi. Hein, apprendre, c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qui m'appartient, quoi. Ça n'appartient pas à la société, c'est ma petite chose, c'est ma petite affaire personnelle, ma petite entreprise privée. C'est aussi l'enseignement mis sous l'idée d'un calcul économique. Effectivement, former c'est quoi ? C'est investir sur le capital humain, d'où un retour sur investissement en termes de croissance économique et de compétitivité. En d'autres termes, et là il y a un autre aspect de la rupture du lien social, qu'est-ce qui se passe quand on fait semblant de croire que la formation c'est un investissement sur du capital humain ? Ben, on oublie tout l'aspect de transmission qui est derrière l'éducation, qui est ce qui fait tout simplement qu'une société évolue. Si une société n'arrive plus à transmettre les connaissances, les valeurs et les savoir-faire qui sont les siens aux générations qui suivent, hein, transmission n'impliquant pas d'ailleurs immobilisme, c'est-à-dire on peut transmettre tout en permettant justement que se renouvellent ces valeurs, etc. C'est ça la transmission aussi, c'est quand quelque chose demeure, mais à la fois quelque chose change. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a plus cette recherche-là, absolument, à ce moment-là, on a affaire à une société, tout simplement, qui ne peut plus, enfin, qui perd sa culture. Anthropologiquement, c'est quelque chose de vraiment fort. Et moi, je me souviens que, quand j'avais découvert la notion de compétence, c'est que, donc, je faisais à l'époque un débat sur la religion, et puis mon formateur m'avait dit, voilà, vous auriez pu faire en sorte que votre débat serve à développer telle ou telle compétence chez l'élève. Il me disait, mais il ne s'est pas rendu compte que, à la fois, ce débat avait été l'occasion justement de réfléchir aux religions, de transmettre tout un tas de connaissances sur l'origine des religions, sur la différence entre sectes. Et tout ça, finalement, n'avait aucune valeur, en fait, dans ce modèle. C'est-à-dire, il aurait fallu que juste ça serve. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui est le produit de la longue durée de l'histoire et des sociétés, il aurait fallu que ce soit canalisé pour que ça serve à un individu pour sa réussite individuelle. Et là, je me disais, mais il y a un suicide sociétal, quoi. C'est dans ce modèle, en tout cas. Donc voilà, ici, on a quelque chose qui casse le lien social parce que ça casse finalement, me semble-t-il, le lien organique qui font d'une société une société, qui font d'une culture une culture, parce qu'elles permettent justement qu'il y ait transmission dans la société, dans les... Voilà, j'ai terminé et j'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse. Donc, voilà.